Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette réunion débat, ce webinaire, c'est au choix, de la gauche éco-socialiste donc consacrée à l'éducation dans un moment donc où des mobilisations importantes sont en cours en région parisienne, en particulier dans le département de Seine-Saint-Denis. Capucine Larzillière est là pour nous en parler. Elle interviendra en début de. Après Laurence, en début de débat, pour rendre compte un petit peu de la situation et nous parler un peu de ce mouvement. La gauche éco-socialiste, comme vous le savez certainement, c'est un mouvement politique inséré dans la France insoumise. Nous sommes partie prenante de la France insoumise. Voilà, nous sommes liés à un certain nombre de députés. Éric Dévy, Marianne Maximi, Michel Sala. Et nous avons par ailleurs une relation politique particulière aussi avec Clémentine Autain, puisque pour beaucoup d'entre nous, nous sommes issus du mouvement Ensemble, hein, où nous étions, où nous militions avec elle, et plus exactement du courant de Ensemble qui était inséré depuis le début, depuis 2017, hein, dans la France insoumise, Ensemble insoumis. Donc cette soirée, on l'a voulu comme un débat qui porte sur effectivement les enjeux de l'école face à des attaques gouvernementales qui sont d'une brutalité quand même nouvelle, hein, radicale, avec une problématique qui est de se questionner sur comment on y répond et de travailler à la fois à analyser un peu le contexte de ces attaques, leurs implications, mais aussi de traiter en deuxième partie de débat des propositions de ce qu'on peut mettre en œuvre, de ce qu'on peut porter en termes d'alternatives. Voilà. Donc l'idée, c'est pas simplement de s'en tenir au diagnostic, mais c'est d'articuler un diagnostic et des propositions concrètes. Je vais laisser tout de suite la parole à Laurence Decocq qui va introduire. Ensuite, donc, on aura Capucine, puis Fred Grimaud et Grégory Chamba pour chacun une première intervention hein, à partir de leurs travaux. À toi, Laurence.
Merci beaucoup Emmanuel. Bonsoir à toutes et tous. Ça va, vous m'entendez correctement, c'est bon? Ok. Oui, quelques mots d'introduction pour appuyer déjà ce que vient de dire Manu, en particulier cette idée que nous sommes à un moment charnière. Moi, je pense que nous sommes à un moment charnière dans l'histoire de l'école et notamment par rapport à ce qui arrive à l'école publique, par rapport à ce qui nous tombe dessus en termes de destruction. Et donc, je crois que nous sommes à un moment où nous sommes finalement acculés à réagir. Voilà. Et c'est peut-être ça qui le rend intéressant, c'est-à-dire que, à mon avis, nous n'avons plus tellement le choix. Il va falloir que nous trouvions des portes de sortie. Je ne vais pas m'étendre trop sur le diagnostic parce que je pense que nous sommes à peu près tous et toutes d'accord ici et puis on en parlera sans doute dans la discussion. Je dirais pour le résumer très très vite, qui correspond à ce que j'appelle la contre-démocratisation scolaire, c'est-à-dire à un moment sans doute qui est peut-être comparable, on en parlera, mais à ce qui est, ce qui on pourrait remonter en tout cas à quelque chose qui est arrivé au moment de Vichy peut-être. Voilà, je vois pas tellement l'équivalent. Alors je m'explique. Si on doit donner un sens de l'histoire, hein, c'est la formule à un terme, et notamment un sens de l'histoire à l'histoire de l'école. On dirait que c'est un chemin accidenté avec toujours la même boussole qui est celle de la démocratisation scolaire. Voilà. Que cette démocratisation scolaire, elle a toujours reposé, on va dire, sur deux piliers. Le premier pilier, c'est celui de rendre possible la scolarisation des enfants ensemble le plus longtemps possible et donc d'essayer de limiter le nombre de voies parallèles, le nombre de voies de bifurcation, aussi bien pour les enfants des milieux populaires que pour les enfants des catégories les plus favorisées. Et puis le deuxième pilier, c'est de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Là, on a ces deux piliers-là qui sont attaqués de façon extrêmement décomplexée, sur un temps long par la vague néolibérale, on va dire, hein, dans laquelle on est depuis quand même maintenant plusieurs décennies. Et puis sur un temps plus court, l'arrivée de la Macronie avec ce moment, on va dire, emblématique de ça, hein, qui est le fait de décider, donc il y a 2 jours, l'établissement des groupes de niveau. Donc vous voyez là, en termes de multiplication des voies parallèles, on est vraiment dans un recul qui est un recul, on va dire, complètement assumé et complètement emblématique de cette contre-démocratisation. Ce qu'on peut dire donc, et en tout cas ce que j'aimerais soumettre à discussion, c'est que on a en face de nous des gens qui ont un projet politique éducatif très bien ficelé, qui est voilà, qui ont un projet. On va voir qu'il y a des apparentements possibles avec l'extrême droite, avec une droite néolibérale, voilà, et que nous en face. On peine un petit peu à trouver des réponses qui sont des réponses non pas syndicales parce qu'on en a plein, hein, mais qui soient des réponses de nature justement politique. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette réunion, c'est pour essayer d'interroger un peu ce que notre gauche peut faire, hein, face à ce rouleau compresseur. Alors évidemment, je dis notre gauche parce que la gauche a déjà été au pouvoir, elle a déjà tenté des choses. Hein. On a vu comment cette gauche a pu se couler de façon assez naturelle avec un discours très sirupeux, hein, d'égalité des chances et blablabla. Donc se couler finalement dans une dynamique néolibérale sans aucune difficulté. Mais moi, la gauche qui m'intéresse, évidemment, c'est la gauche, c'est la nôtre, donc c'est la gauche de transformation sociale, hein, à savoir qu'est-ce que nous, on a à opposer à ce qui est en cours, sachant que nous sommes pris dans une contradiction aussi, et ça aussi, je le mets à discussion, hein, nous sommes pris dans la contradiction d'être particulièrement lucides sur les dysfonctionnements de l'école publique, hein, et notamment sur le fait que nous avons affaire et nous travaillons pour certains d'entre nous dans une institution qui reproduit et accentue les inégalités scolaires. Donc nous sommes les premiers à en être très critiques, et pour autant, nous devons aussi nous poser comme les défenseurs et les défenseuses, au moins d'un principe, hein, qui est celui d'une école publique qu'il faudrait peut-être redéfinir, mais voilà, qui est une école, on va dire, populaire, commune, démocratique. Voilà. Et donc, je propose que nous discutions aussi de comment nous positionner dans cette petite faille de contradiction-là. Alors, on a réfléchi à l'architecture de cette soirée ensemble. On a eu l'idée d'inviter d'abord 2 personnes et puis Capucine comme 3e personne dès que le mouvement du 93 s'est déclenché. C'est d'abord Capucine qui prendra la parole pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe effectivement dans ce département emblématique du 93. Et puis, nous avons choisi d'inviter Frédéric Grimaud qui a publié un livre très intéressant que je vous conseille à partir de ses travaux sur la question de la prolétarisation du métier, donc un élément diagnostique, hein, je laisserai évidemment définir ce qu'il entend par là, et un deuxième livre très intéressant de Grégory Chamba sur l'extrême droite et l'école, et voilà, qui nous a aussi paru être une première piste intéressante pour lancer une discussion. Donc, Capucine, je te donne la parole. Je la reprendrai effectivement après les 3 interventions pour embrayer sur la question des propositions.
Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je suis enseignante à Montreuil, en lycée, dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Et pour faire le lien avec ce que disait Laurent, je pense que c'est vrai que le 93, je pense, c'est un peu à la pointe de la contre-démocratisation scolaire. Et cette idée qu'aujourd'hui, on est acculé à réagir, je pense que c'est un des moteurs qui va expliquer l'ampleur de la mobilisation, une mobilisation historique en fait que connaît le département aujourd'hui, puisque en fait on entame la 4e semaine de mobilisation et une mobilisation qui, d'un certain point de vue, continue en fait de s'amplifier à sa 4e semaine. Donc les références qui sont faites souvent, ce sont celles du mouvement de 1998. Même si en Seine-Saint-Denis, c'est un département où les enseignants souvent sont jeunes, plutôt de début de carrière, donc il n'y en a pas beaucoup qui l'ont connu. Mais en termes d'ampleur de la mobilisation, il y a cette référence au mouvement qui avait gagné un plan d'urgence en 1998. Donc le moteur de la mobilisation, c'est d'abord donc la revendication d'un plan d'urgence pour le 93. Donc, en fait, c'est une mobilisation qui a démarré le 26 février, mais qui s'est construite depuis plusieurs mois, puisque, en fait, au départ, ça part en fait du rapport parlementaire qui a été dirigé par Stéphane Peu, qui est paru à l'automne, et qui faisait l'état de la sous-dotation de la Seine-Saint-Denis, et en fait qui montrait que depuis le rapport parlementaire précédent de 2018, et malgré les annonces qui avaient été faites à l'époque, la situation n'avait fait que s'aggraver. Et du coup, il y a eu tout d'abord un travail mené par une intersyndicale, donc CGT, FSU Solidaire CNT, d'enquête dans tous les établissements scolaires pour réaliser un état des lieux, établissement par établissement, sur le bâti et sur le manque de personnel, qui a conduit à la réalisation donc d'un état des lieux chiffré, édifiant, c'est-à-dire que c'est le manque du chauffage, c'est les fenêtres qui ferment pas, c'est les nuisibles qui infestent certains collèges, et puis c'est le manque de remplacement des profs. Enfin, on sait ce chiffre qu'en Seine-Saint-Denis, au cours de sa scolarité, un élève perd en moyenne une année par faute de remplacement du prof, mais c'est aussi le manque d'AESH, donc de personnes pour accompagner les élèves en situation de handicap, donc d'AED, etc. Et donc, ça a conduit à l'élaboration d'un plan d'urgence chiffré à 358 millions d'euros, 5 000 enseignants, etc. Bon. Tout ça a été chiffré, mais dans une démarche donc, qui partait déjà d'une certaine mobilisation des équipes dans les établissements pour réaliser l'état des lieux, et qui aboutit donc à cette idée de le 26 février, le 93 ne fait pas sa rentrée, qui était un pari assez audacieux de la part de l'intersyndicale, même si la colère grondait depuis longtemps, et notamment avec les annonces d'une part de baisse des moyens de l'éducation, mais aussi des milliards qui vont être mis pour la généralisation du SNU ou l'uniforme, qui apparaissent comme des provocations supplémentaires en fait, dans un département où beaucoup d'enseignants ont l'impression de tenir à bout de bras une institution qui prend le de toutes parts, où le service public il est attaqué pas simplement par les réformes, mais juste par l'absence de moyens de base pour faire tourner les établissements. Et un sentiment assez similaire chez les parents qui en subissent aussi les répercussions pour leurs enfants. Et puis à ça, donc, s'est ajoutée la question du choc des savoirs. Donc, je ne vais pas développer, ce sera abordé plus tard, mais cette mise en place des groupes de niveau. Dans le 93, qui est le département hexagonal le plus pauvre, les effets prévisibles sont encore plus dramatiques qu'ailleurs, parce qu'on voit bien que ça signifie, en fait, pour les élèves qui cumulent des difficultés scolaires ou sociales, la perspective, en gros, de la relégation définitive et donc d'être enfermés dans des voies de garage qui les conduiront plus tard, à devenir une main-d'œuvre sous-payée. Donc, cette question du tri social, elle apparaît particulièrement prévisible dans le 93. Donc, ça, c'était vraiment ce sont un peu les deux moteurs de la mobilisation. Vraiment, plan d'urgence et choc des savoirs. Donc, plan d'urgence, c'est-à-dire à la fois sur le bâti et sur le manque de personnel. Et en fait, donc, le 26 février, 40% des enseignants du département étaient en grève, donc le jour de la rentrée, donc c'était un pari de l'intersyndicale réussi. Et depuis, la mobilisation n'a cessé de prendre de l'ampleur avec des taux de grévistes, donc c'est une grève reconductible, mais sur les grosses journées, les taux de grévistes montent à 60%, mais c'est 100% dans certains établissements, et pas forcément dans les endroits du département qui sont habituellement les plus mobilisés. Tout le monde a pu voir, par exemple, je pense, la petite vidéo de Sevran qui a circulé. Bon, c'est des coins du département qui ne sont pas habituellement les plus mobilisés. Donc, une grève reconductible qui est appuyée sur aussi des assemblées générales fournies au niveau des établissements, des villes et du département, puisque c'est en fait l'assemblée générale donc, qui réunit 400 personnes les soirs de mobilisation, qui décide de la suite des actions et qui est ensuite repris par l'intersyndicale. Et ce qui est significatif aussi, je termine avec ça pour pas être trop long, mais c'est vraiment l'engagement des parents et la mobilisation de tout un territoire. C'est vraiment remarquable, quoi. C'est-à-dire que dans plein d'établissements, lorsqu'il y a eu des réunions avec des parents, ils sont venus à 100, 200, et ensuite, ont pris, eux, et continuent d'ailleurs de prendre leurs propres actions. Par exemple, samedi, dans quasiment toutes les villes, il y avait dans la journée des défilés donc, des écoles vers les centres des villes avec des. Donc à Montreuil, ils étaient au final, tous les coins de la ville, 1 000 personnes à se retrouver. Et cette question d'une mobilisation à l'échelle du territoire, elle est, je pense, significative, parce qu'en fait, derrière la revendication du plan d'urgence, ce n'est pas trop la revendication d'une spécificité du 93 qui est mise en avant, c'est une revendication d'égalité par rapport aux autres départements, mais il y a plutôt cette idée qu'il y a une expérience commune, une identité à cette échelle, une expérience commune qui est le lieu où on peut s'organiser pour relever la tête et réagir, comme le disait Laurence tout à l'heure. Donc, c'est plutôt l'idée d'ouvrir le bal pour que d'autres suivent que d'une mobilisation qui se vit comme séparée du reste du pays. Voilà, je ne suis pas plus loin parce que j'ai terminé mon temps, je crois.
Parfaite gestion du temps, Capucine. Eh bien, ça va être à Fred.
Ben, bonsoir tout le monde, vous m'entendez, c'est bon?
Ouais,
Ok.
c'est impeccable.
Alors du coup, effectivement, la question de l'école, moi aujourd'hui, je voudrais la poser du point de vue du travail des professeurs des écoles, des profs, en tout cas, les considérer comme des travailleuses et des travailleurs. Et j'essaie de regarder dans les recherches que je mène, ce qui se joue chez elles et chez eux pour, et qui participent à favoriser ce mouvement dont parlait Laurent dans son introduction de casser les piliers de la démocratisation scolaire. Alors, au départ, je voulais parler du symptôme d'abord qu'on ne peut pas esquiver, c'est celui d'une profession qui ne va pas bien, de ce qu'Anne Barrère appelle un malaise enseignant. C'est le premier truc que j'ai essayé de diagnostiquer, c'est le mot, hein, dans mes recherches, parce que d'abord parce que je suis confronté, chaque fois que j'interroge des enseignants, ben, c'est la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils manquent de reconnaissance, qu'ils se sentent pas bien, etc. Et dans les différents entretiens que je mène, il y a aussi beaucoup de syndicalistes qui me font part d'une inflation, on va dire, d'appels à la permanence téléphonique qui sont sur ce thème-là. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas... qu'on ne peut pas mettre dans notre angle mort quand on pense la question de l'école, c'est la question de la santé des professeurs des écoles. Hein, c'est pas seulement un point de vue, on va dire subjectif d'un militant de gauche, c'est aussi des indicateurs, y compris du ministère, de la DEP, qui dans le baromètre du bien-être au travail montrent qu'il y a un vrai souci. On sait aussi qu'il y a une inflation de démissions, de difficultés à recruter. Je passe parce que vous connaissez tout ça. La question que je me suis posée, donc, du coup, c'était d'où ça vient, ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ce malaise-là au-delà d'un point d'indice gelé? Et là, on peut aussi facilement s'appuyer sur de l'existant. Il y a pléthore de recherches en analyse du travail, en ergonomie, en psychologie du travail, etc., qui ont montré que c'est essentiellement imputable à la perte du sens de l'activité des fonctionnaires en général et des professeurs en particulier, la perte du sens qui a été éprouvée dans d'autres secteurs de la fonction publique, comme, je sais pas, la Poste, France Télécom, etc., et chez nos collègues de la santé, de l'université, etc. Cette perte du sens, c'est-à-dire il faut considérer le travail comme une expérience subjective. C'est ce qui compte, c'est pas uniquement le produit fini, c'est pas uniquement la finalité du travail, c'est pas non plus uniquement les relations sociales qu'on va tisser ou la place qu'on prend dans la société. C'est aussi, à un moment donné, les êtres humains font une expérience subjective qui peut jouer sur leur santé. Et c'est le cas quand ils si, ou elles ne s'y reconnaissent pas, quand on peut imaginer quand ils doivent faire passer un choc des savoirs. Être les artisans et les artisanes du tri social, eh bien, ça peut heurter les valeurs qu'ils portent et qu'elles portent, et donc les mettre en difficulté, y compris sur le plan subjectif. J'espère que je me fais bien comprendre. Et donc, cette idée-là, ensuite, c'était, ben, du coup, qu'est-ce qui fait que des fonctionnaires perdent le sens de leur activité, okay? Qu'est-ce qui fait? Et quelles sont les grandes logiques qui participent à réorganiser le travail des professeurs? Et ce qu'on voit bien, c'est que ce qui s'applique, notamment depuis Jean-Michel Blanquer, avec force, ce sont les règles du nouveau management public. Alors, on le savait déjà parce que ce n'est pas nouveau, hein. D'abord, elles sont arrivées dans les années 90 dans l'ensemble de la fonction publique. Ces nouvelles règles, de nouvelles manières managériales d'organiser le travail, avec une gouvernance par le chiffre, avec un reporting permanent, du lean management. Je ne sais pas si tu as besoin que je détaille tout ça, mais en tout cas, on pourra peut-être en parler dans la discussion. En tout cas, ce sont des nouvelles manières d'organiser le travail qui sont en réalité l'importation de normes de travail, issus du secteur privé, donc ils sont eux mus par, je sais pas moi, la performance, la compétitivité, la rentabilité, etc., etc., et qui sont des normes étrangères ou en tout cas peu communes et peu pénétrées, historiquement situées en tout cas dans la profession des professeurs des écoles. Et donc ces nouvelles manières de fonctionner, qui en réalité, on pourrait les résumer comme, on va dire, essayons de privatiser tout ce qu'on peut, de mettre sur le service marchand, secteur marchand, soumis à la concurrence libre et non faussée, tous les services que nous pouvons en Europe et notamment en France. Et ce qu'on ne peut pas complètement privatiser, dans ce cas-là, faisons-le fonctionner comme une entreprise. Et donc l'idée, c'est d'autonomiser tous les établissements, de les évaluer en permanence pour les mettre en concurrence les uns avec les autres, voire les travailleuses et les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. C'est cette idée qu'il faut absolument faire du repentir, c'est-à-dire informer la hiérarchie de tout ce que nous faisons dans le détail par le biais de tableaux Excel qui génèrent une surinflation de mails et de tâches chronophages et souvent inutiles à la bonne exécution du travail. Tout ça, c'est arrivé dans la fonction publique et c'est arrivé aussi dans l'école, à l'école. Et c'est arrivé à l'école plus récemment que dans d'autres services. En tout cas, plus silencieusement pendant des années. Et il faut reconnaître quand même que la période Jean-Michel Blanquer, elle m'a bien permis d'éclairer tout ça parce que lui, il a mis noir sur blanc ce qu'il voulait faire. Bon, d'abord, il a aussi resté 5 ans, hein, donc il a été aidé par sa très grande longévité, on va dire, à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il a été aidé aussi par un effet d'aubaine de la crise Covid, une espèce de choc, stratégie du choc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'est servi de quelque chose qui a imprimé les esprits pour pouvoir faire passer ces réformes. Et Jean-Michel Blanquer, lui, il a eu cette sincérité, on va dire, je ne sais pas si c'est le mot, d'annoncer avant d'être ministre tout ce qu'il allait faire comme réforme. Il a écrit, notamment dans son livre L'école de demain, il pose les bases de cette nouvelle école autonomisée avec un chef dans chaque établissement, un pilote, d'ailleurs qu'il appelle lui-même patron. Hein, donc c'est bien qu'il conceptualise ça, les écoles comme des petites entreprises. Il explique qu'il faut favoriser la concurrence, l'autonomie, la territorialisation, etc., etc. Tout ça, lui, Jean-Michel Blanquer, il a cette sincérité, allez, on va dire comme ça, de l'avoir annoncé. Et donc, du coup, ça a été facile pour moi de mieux comprendre le projet néolibéral qui surplombe toutes ces réformes et qui, donc, crée la perte du sens dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on peut se demander, d'ailleurs, quels sont les buts de ces logiques néolibérales, puisqu'elles n'améliorent pas la qualité du service rendu, elles abîment la santé des travailleuses et des travailleurs, etc., etc. Alors, évidemment, parmi les objectifs qu'on pourrait voir en premier, c'est celle de préparer la privatisation de tout ou partie de l'éducation nationale. C'est aussi, bien évidemment, des objectifs de réduction des coûts du service. D'accord, ça c'est vrai. Ça a été largement documenté. Mais il me semble que ce qui transparaît aujourd'hui, en tout cas, ce que les politiques ont de plus en plus de mal à cacher, c'est la volonté réelle de prendre le pouvoir sur le travail. C'est ça que je me suis attaché à d'essayer de comprendre. D'où vient cette volonté-là de la classe dominante, je vais l'appeler comme ça, de prendre le pouvoir sur les travailleuses et les travailleurs. Et en réalité, c'est pas neuf, ça ne vient pas des années 90, c'est 100 ans avant. Et on retrouve j'ai retrouvé en tout cas dans les écrits de Frédéric Winslow Taylor, donc le papa du taylorisme, la même volonté de pouvoir exercer une coercition sur le travail, de le caporaliser, de le prescrire de manière extrêmement fermée, de justifier cette prescription par la science. Et tout ça, on le retrouve dans la volonté de Taylor et dans le bouquin de Jean-Michel Blanquer. Donc il y a un petit parallèle, si vous voulez, qui n'est pas si hasardeux que ça. Au début, je croyais qu'il était hasardeux. En réalité, il est franchement assumé par Jean-Michel Blanquer et probablement par ses successeurs, si jamais on leur laisse le temps de s'exprimer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et ce phénomène-là que Taylor a mis en place, lui, il a mis en place avec cette volonté de, alors lui, il appelait ça lutter contre la flânerie naturelle du travailleur, hein, et donc il a voulu confisquer l'expertise que pouvaient avoir les travailleuses et les travailleurs de la qualité du travail, Donc, leur expertise sur la tâche, leur expertise sur les outils pour exécuter cette tâche. Taylor est un farouche défenseur de ceux qui pensent qu'il faut que ça appartienne à ceux qui organisent le travail, notamment dans l'industrie, le patronat, mais pour nous, ça serait le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire ceux qui organisent notre travail doivent avoir le pouvoir sur notre travail. Je vais finir mon intervention en nous demandant pourquoi est-ce qu'ils veulent à ce point-là avoir le pouvoir sur notre travail. Eh bien, dans l'introduction de Laurence et dans les propos de Capucine, on voit en filigrane ça, en fait, en réalité. Pour faire accepter à des gens des choses aussi folles que les trier les élèves entre les bons, les moyens, les pas bons, de faire accepter à des maîtresses de maternelle d'évaluer leurs élèves dans des évaluations normées où on chronomètre les élèves sur la vitesse de lecture, etc. En fait, pour leur faire accepter des réformes qui vont à l'encontre de l'histoire et de la culture de leur métier, on comprend bien qu'il y a un réel besoin, avant, en amont, de casser leur métier, de casser leur culture commune, leur professionnalité, de leur confisquer la capacité à pouvoir dire ça c'est du bon travail et ça c'est pas du bon travail, okay? Et donc d'être les décideurs, les concepteurs de leurs tâches. Et c'est un moyen, une condition nécessaire à pouvoir faire ensuite, à pouvoir dérouler ensuite des réformes qui sont des réformes de, je ne sais pas, quelqu'un a employé le terme de tri social que je trouve très, très intéressant, très important, parce que c'est ça au fond. L'idée, c'est d'avoir une école à deux vitesses, hein, une école pas démocratique. Et donc, du coup, pour y arriver, il faut prolétariser les profs des écoles. Voilà, c'est le propos de mon ouvrage et de mes recherches.
Merci Frédéric. On va donc tout de suite donner la parole à Greg qui va compléter ce tableau initial, hein, donc les éléments de diagnostic. Et bah, Greg va nous dire sur quoi il intervient. Je pense que c'est mieux. Voilà. À toi Greg.
Ok, oui, bonjour à toutes et à tous d'abord, et puis un grand merci pour cette invitation. Et puis j'en profite aussi pour saluer Capucine et tous les camarades et collègues du 93 dans leur lutte parce qu'elle est vraiment importante et que bah, c'est, je pense, aujourd'hui un des éléments de réponse qu'on va pouvoir aussi développer. Un petit mot quand même pour savoir d'où je parle. Donc moi, je suis enseignant au collège depuis 30 ans maintenant. Je travaille avec des élèves primo-arrivants allophones dans ce qu'on appelle une UPE2A au collège à Mantes-la-Ville. Et Mantes-la-Ville, c'est une ville qui a la particularité d'avoir élu un maire Front National entre 2014 et 2020, le premier maire de France d'extrême droite. Voilà, et ce qui explique en partie, pas seulement, mais ce qui explique en partie bah, les travaux un petit peu que j'ai menés sur cette question des rapports entre l'extrême droite et l'école. Et c'est alors le tableau, il est déjà bien sombre après les trois interventions, malgré la lueur d'espoir à travers la lutte du 93. Je ne vais pas forcément l'éclaircir dans un premier temps, mais on gardera bien entendu notre combativité pour la deuxième partie. Et voilà, mais effectivement, il est important de poser les choses. Et dans l'analyse globale de la situation de l'école, des débats sur l'école, de ce que disait Fred tout à l'heure, comment comprendre qu'on avance à reculons de l'histoire en ce moment, à reculons de l'histoire, c'est-à-dire à reculons de l'égalité, à reculons de la justice sociale, etc. Eh ben, il faut se pencher sur la bataille culturelle en cours et une bataille culturelle dont je fais le triste diagnostic qu'elle est actuellement en train d'être remporté par l'extrême droite, qui est actuellement, bah, qui impose son discours, qui impose son agenda, et derrière laquelle court notre gouvernement pour un certain nombre de raisons. Or, cette obsession de l'extrême droite pour l'école, elle est très largement sous-estimée. C'est-à-dire que, bien que cela fasse 40 ans dans la phase actuelle, mais en fait, depuis son origine, l'extrême droite mène un combat central sur la question de l'éducation, hier comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ben juste, c'est par exemple Éric Zemmour qui affirmait pendant la campagne présidentielle que, je cite, la bataille culturelle et politique se joue avant tout à l'école. Et effectivement, bien que ce soit passé un peu sous les radars, bien que peu de travaux se soient intéressés directement à cette question-là, eh ben, l'extrême droite a avancé. Et elle a avancé. Alors, je vais pas vous faire un panorama complet parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, voilà, ça renverrait à des choses un peu plus détaillées. Mais c'est à la fois une obsession historique. Il a été déjà fait référence à Vichy. Effectivement, c'est intéressant parce que Vichy, c'est à la fois une expérience historique, mais aussi un élément que, par exemple, Éric Zemmour tente absolument de réhabiliter. Et que dans le combat que mène cette extrême droite, il y a évidemment la centralité de la question de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire, de la réécriture de l'histoire. Ça, c'est vrai à l'échelle nationale, mais en fait, cette obsession de l'extrême droite pour les questions d'éducation, c'est une réalité à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que dans le livre, j'ai essayé d'analyser un petit peu ce qui s'est passé au Brésil, ce qui s'est passé sous Bolsonaro, ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, plus près de nous en Turquie ou en Hongrie. On pourrait prendre des exemples en Inde actuellement ou en Italie, où par exemple le ministère de l'Éducation nationale, dès la nomination de Giorgia Meloni, a été rebaptisé ministère de l'Éducation nationale et du Mérite. Voilà. Et donc, en fait, pour revenir sur l'introduction de Laurence, effectivement, il y a un ennemi. Alors, comme disait Maurras, hein, la démocratie, voilà l'ennemi. C'est un des fondements de la politique de l'extrême droite. En fait, face à la démocratisation scolaire, plus ou moins aboutie, enfin, plus ou moins parfaite, j'aurais envie de dire plutôt plus imparfaite que parfaite, on a cette vague réactionnaire qui avance. On a ce que on est plusieurs à appeler une contre-révolution scolaire. Et cette contre-révolution scolaire, bah, elle a un objectif, c'est d'éradiquer l'idée même de démocratie scolaire et l'idée même d'égalité. Et on le voit, on est en plein dedans avec ce qui se passe aujourd'hui avec les groupes de niveau, pas seulement hein, le brevet, la multiplication des évaluations, voilà, toute une série de mesures, le SNU et compagnie. Et donc, en fait, dans ce combat, l'école est une des pointes avancées de cette lutte. Et c'est là que se joue cette bataille culturelle et cette bataille pour l'hégémonie culturelle. Une bataille qui est en passe d'être gagnée, puisque Fred, tu as beaucoup parlé de Jean-Michel Blanquer. Dès sa nomination, quelques mois après sa nomination, Marine Le Pen saluait dans la politique éducative de Jean-Michel Blanquer une victoire idéologique et même politique, précisait-elle, des idées du Front National à l'époque. Quant aux mesures de Gabriel Attal qui sont actuellement mises en place, Roger Chudeau, c'est un peu le monsieur éducation du Rassemblement National. Pour mémoire, c'est celui qui, à l'Assemblée nationale, demandait aux syndicats de baisser d'un ton hein, lors de l'audition hein, qui a eu lieu à la rentrée dernière. Et ce Roger Chudeau, lui, il voit dans les mesures de Gabriel Attal un décalque exact des propositions de Marine Le Pen. Ça va de l'uniforme à l'école, à cette explosion du collège unique, cette fin du collège unique, à une sélection accrue. Il y a un point commun entre les programmes éducatif d'Emmanuel, enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas il y a celui-là qui est d'établir la sélection la plus précoce possible. Pour Marine Le Pen, il s'agit d'orienter dès la cinquième les élèves, cinquième, hein, 11 ans, on oriente dès la cinquième. Quant à Éric Zemmour, lui, c'est le retour d'un examen d'entrée en sixième. Bref. Donc il y a un certain nombre de questions, je pense qu'il va falloir se poser et aborder. Une première question, c'est pourquoi ça marche? Pourquoi aujourd'hui, les débats autour de l'école, ils sont comme ça noyautés, complètement phagocytés par les discours réactionnaires sur l'école? Moi, je vois trois éléments. Le premier élément, c'est que cette extrême droite, elle s'adresse aux parents, et aussi souvent aux grands-parents, et ça leur permet de flatter un discours nostalgique sur l'école qui serait mieux avant, où évidemment on connaissait tous par cœur préfecture et sous-préfecture, et on était beaucoup plus heureux comme ça, alors que l'école d'aujourd'hui, elle est, là on va avoir le discours idéologique sur les enseignements, sur les questions de genre, sur l'antiracisme, sur etc., alors que aujourd'hui l'école, elle se consacre à elle se consacrerait à d'autres tâches que celles qu'il faudrait. Et donc, il y a ce discours nostalgique qui est vraiment prégnant. Et là, on le voit avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les groupes de niveau, ils sont vendus pas du tout à nous, hein, pas du tout au personnel, parce que on sait là les votes qu'il y a eu au Conseil supérieur de l'éducation, c'était un refus unanime, mais ils s'adressent d'abord et avant tout à la population, voilà, à travers les médias. La deuxième raison et qui doit nous interpeller de ce succès et de cette victoire idéologique et culturelle, ben c'est qu'en fait, quand on prend les discours, les propositions de l'extrême droite sur l'école, il y a quelque chose qui est, il y a deux choses qui sont complètement évacuées. Mais la première, c'est la question des moyens. C'est-à-dire que tout repose sur un discours idéologique. C'est le fameux grand endoctrinement. Et donc, pour résoudre les problèmes de l'école, parce qu'il faut qu'il y ait des problèmes à l'école si on veut faire appel au sauveur ou à la sauveuse suprême, pour résoudre ces questions-là, en fait, jamais vous entendrez parler des effectifs. Pas question d'effectifs dans le programme de l'extrême droite ni dans le discours de l'extrême droite. Non, il est question de restauration de l'autorité, il est question ben, d'uniforme, de salut au drapeau, il est question de remettre le roman national à l'honneur dans les programmes, il est question de faire aimer son pays, sa patrie, à travers une réécriture des programmes. Mais tout ce qui est question de moyens, question de conditions de travail dont on a parlé, des conditions d'enseignement, des conditions voilà, des personnels et des élèves, tout ça disparaît. C'est formidable. C'est formidable. Quand on veut dérouler un budget avec des milliards et des milliards d'économies, ben on évacue cette question-là. Malheureusement, il y a des troublions comme dans le 93 qui nous rappellent qu'on ne peut pas enseigner dans des établissements qui s'écroulent, on ne peut pas enseigner avec des personnels contractuels, des personnels comme ça, avec un turnover extraordinaire, mais ça, on va le mettre de côté. Donc ça peut séduire. Et puis, le troisième élément sur ce succès, bah, malheureusement, je pense qu'il est aussi notre responsabilité. C'est-à-dire que dans ce discours, qu'est-ce qu'on peut opposer, nous? C'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'une défense de l'école, certes de l'école publique, hein, certes nécessaire, etc. Mais on peine à imposer nos propres questionnements et on peine surtout, je pense, à imposer un discours critique sur cette école. Si on n'a pas ce discours critique, si on n'est pas dans la lutte avec les familles, les parents, en disant que ben, l'égalité des chances, la méritocratie, tout ça, c'est des discours et qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est pas l'égalité des chances, c'est l'égalité tout court. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la méritocratie, c'est la démocratie. Et que si on n'arrive pas à imposer ces discours à travers le mouvement social, on est, voilà, on est en position de faiblesse, en position défensive et pas en position offensive. Et donc, cette hégémonie actuelle des discours réactionnaires et de cette contre-révolution scolaire, et je m'arrêterai là. Je regarde le temps, ouais, c'est ça, je crois. Ben en fait, c'est que elle est particulièrement utile pour accompagner l'agenda néolibéral. Et ça, on l'a vu au Brésil ou aux États-Unis. C'est-à-dire que ces luttes sur l'école, en fait, derrière les discours idéologiques, derrière le combat contre le wokisme, voilà, systématiquement, en fait, c'est des coupes budgétaires. On coupe on coupe les budgets des écoles et des universités qui sont accusés d'être wokistes ou islamo-gauchistes ou que sais-je. Et donc, ça permet d'imposer ce discours-là. Et puis, ces débats ou ces attaques du type parents vigilants dans les écoles, elles nous paralysent aussi, elles paralysent le mouvement social, elles paralysent la riposte. Et je conclurai quand même en disant que l'histoire, elle nous enseigne une chose, c'est que l'extrême droite, elle n'arrive jamais au pouvoir toute seule. Elle arrive toujours accompagnée par une vague conservatrice et par le basculement d'une partie de la classe dominante et de la bourgeoisie dans le camp de l'extrême droite. Et ce qui se joue actuellement avec les politiques éducatives du gouvernement, eh ben, c'est un rapprochement de plus en plus inquiétant avec les projets de l'extrême droite. Voilà, merci.
Bien, merci beaucoup à vous tous et toutes. Laurence va reprendre la parole. Alors, je m'excuse à nouveau là, j'ai un peu tardé à trouver la fonction salle d'attente pour gérer les trolls. Donc, normalement,
Tu n'auras
maintenant.
pas ton brevet de gestion de classe.
Et non. Enfin, en tout cas, pas de classe Zoom, c'est vrai. J'ai été peu trollé quand j'ai fait Zoom, c'est pour ça. Donc, j'avais pas la. Donc voilà, donc ça, Laurence va réintervenir. L'idée, c'est d'articuler donc les interventions liminaires là qu'on vient d'entendre avec le sujet que faire, hein, quelle proposition, quel projet d'école, etc.
Oui, merci beaucoup. Ben, merci à vous trois déjà pour la richesse de vos interventions. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop coupée quand même en introduction pour essayer de faire quand même la transition avec ce que j'ai dit et puis l'articuler en effet avec ce que vous venez de dire. Je suis partie de l'idée, hein, pour faire un petit résumé. Hein, je fais de la pédagogie explicite, c'est très dans l'air du temps. Il faut rappeler ce qu'on vient de dire. Donc, je suis partie de l'idée qu'on était en plein moment de contre-démocratisation. Alors, Greg a parlé de contre-révolution scolaire et que c'était un moment qui était finalement un peu propice puisqu'il nous acculait à devoir nous positionner et à devoir réagir par rapport à ça. Ce que je vous propose, moi, c'est de ne pas traiter, puisqu'on va évidemment en discuter, de la question des solutions immédiates, même si, honte à nous, nous n'avons pas rappelé que demain avait lieu une grande grève, que évidemment nous en serons, et que c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a choisi la date d'aujourd'hui. Je voudrais me situer en fait plutôt dans la riposte de nature politique et culturelle, c'est-à-dire dans la bataille culturelle que Greg appelait de ses voeux, et puisqu'on pourrait peut-être qualifier un peu de projet dystopique en fait ce projet de l'extrême droite et de ses auxiliaires néolibéraux. Peut-être faire la proposition de réhabiliter aussi la question de l'utopie contre la dystopie, parce qu'après tout, si on a la radicalité face à nous, il faut aussi assumer de porter nous-mêmes une forme de radicalité. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a une réaction à avoir qui est à double détente, hein. Première détente qui est évidemment la réaction de l'urgence, qui est la résistance, qui est ce que font nos camarades dans le 93 et ce qu'on va devoir aussi penser. Et puis une réaction sur le plus long terme, en fait, qui repose simplement la question de où veut-on aller? Parce que eux savent où ils vont et que nous, à force d'être dans la contre-offensive et dans la résistance, on a peut-être un peu perdu de vue là où on voulait aller. C'est ça que je disais tout à l'heure en introduction quand je posais la question de la place du politique et de comment repolitiser la question de l'école. Alors, je vous propose du coup de partir, moi, du bout de la chaîne. C'est-à-dire, au fond, on ne peut pas se poser la question de la politisation de l'école si on ne se pose pas la question de la société qu'on a envie de construire. Et donc, si on ne reprend pas cette question finalement assez basique, hein, qui a été travaillée par bien d'autres avant nous, à savoir, quelle école pour quelle société? Donc, je vous propose de partir tout simplement du projet, enfin, tout simplement, c'est loin d'être simple, hein, mais de partir du projet de société et puis d'essayer de décliner un petit peu les questions politiques que cela poserait à notre projet d'école. Voilà comment je le dirais comme ça. Grosso modo, la société qu'on peut défendre, alors évidemment, on peut toujours chipoter sur les mots, hein, mais là, je fais le plus petit dénominateur commun, ce serait une société juste, une société démocratique, et on va évidemment réhabiliter le mot, je suis d'accord avec ce que disait Greg là-dessus, une société égalitaire, ça va avec la question de la justice, alors on pourrait dire socialiste, mais on va rester sobre, et puis une société écologique. Voilà. Donc on a un package, hein, grosso modo, hein, qui tournerait autour de ces adjectifs-là. Encore une fois, tout ça est évidemment à affiner. Qu'est-ce que ça appelle, nous cette société à bâtir, qu'est-ce que ça appelle comme manière de politiser l'école et de réfléchir à l'école? D'abord, je pense que la question de la démocratie et de l'égalité et de la justice sociale, comme vous le rappeliez tous, impose que nous défendions une école qui scolarise le plus longtemps possible et ensemble tous les enfants. Donc ça, déjà, il y a quelque chose à penser de l'ordre d'un enseignement commun. Cela sous-entend, deuxième point, qu'on se pose une question, à mon avis, très urgente, qui est dans ce cadre-là, c'est-à-dire pour une scolarisation commune et longue, et donc qu'il faudra rendre désirable pour tous les enfants, qu'est-ce qu'on enseigne, comment et pourquoi? Donc se poser vraiment de façon urgente la question des contenus d'enseignement et des méthodes d'enseignement en les politisant. Et en particulier, si l'école est commune, si on scolarise le plus longtemps possible tous les profils d'enfants, on se pose la question de l'égale dignité des savoirs, hein, comme le disait Krupskaya, hein, et d'autres, Marx, hein, on peut poser la question d'un enseignement polytechnique, à savoir en tout cas d'une égale dignité des savoirs manuels et intellectuels. Hein, si on ne veut pas utiliser des grands mots, on ne peut pas avoir d'école commune avec une culture scolaire qui est aussi adossée à la culture bourgeoise qu'elle l'est aujourd'hui. Troisième point, dans la société qu'on défend, et notamment dans sa dimension écologique, une école qui décélère. Et là, je ferai le lien avec ce qu'a dit Fred, à savoir que décélérer, c'est reprendre la main sur le temps, donc reprendre la main sur le travail, reprendre la main sur ce qui a été confisqué par les néolibéraux, justement dans leur politique de quête d'efficacité et d'urgence. Enfin, et j'ai quasiment terminé, Mathieu, c'est une école aussi qui est démarchandisée et protectrice. Donc tout ça me semble, et puis dernier point, pardon, j'ai oublié, c'est une école qui met en son cœur, hein, au cœur de son projet, au cœur de ses pratiques, au cœur de ses enseignements, la question de la lutte contre les dominations et la question de la lutte contre l'articulation des dominations. Je voudrais juste terminer, j'avais encore un dernier point, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps, terminer en disant qu'on a quand même des pistes, et on a quelqu'un à la GES qui a pensé un petit peu l'école de demain, c'est Francis Vergne avec Christian Laval. Dans ce livre que je vous recommande, hein, qui s'appelle L'éducation démocratique avec un sous-titre La révolution scolaire à venir, ils auraient dû inverser les deux, et qui pose justement des piliers pour penser cette utopie éducative que nous avons à construire.
Merci. Fred, à ton tour de reprendre sur la base de cet horizon ambitieux.
Oui, carrément. Moi, je vais le prendre par une petite lorgnette, hein, qui est celle du travail des professeurs des écoles, parce que je ne suis pas là pour donner mon avis perso ou politique, mais pour rendre compte des recherches que j'ai menées ces 10 dernières années. J'ai oublié de dire, au début, je suis prof des écoles aussi. Hein, voilà, 2 jours par semaine, je suis en classe avec mes élèves. Et donc, du coup, parmi toutes les propositions que fait Laurence, là, la question qui se pose pour moi dans un projet politique, c'est si on veut construire une école de la justice, de la démocratie et tout, et même une société de la justice, de la démocratie et de l'égalité et de l'écologie. Pour ce qui est de l'école, la question que je me pose, c'est quelle place vont tenir celles et ceux qui font ce travail-là, donc les professeurs des écoles, en l'occurrence pour moi, mais pour le secondaire, les profs du secondaire, et évidemment les AESH, les ATSEM, etc., le personnel qui travaille à cette entreprise-là. Et donc, où sont-ils dans la construction de ce projet et comment on arrive à rapatrier dans ce projet leur expérience, ce qu'on pourrait appeler le travail réel, c'est-à-dire ce qu'ils et elles font réellement. Pour moi, si vous voulez, les pistes qu'on pourrait voir, hein, des pistes pour une utopie, l'utopie pour moi, ce serait une société dans laquelle les travailleuses et les travailleurs ont le pouvoir sur le travail, vous l'avez compris à l'intervention précédente, c'est-à-dire ce sont eux qui sont les dépositaires des critères de bonne exécution de la tâche. Ça ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne veut pas dire que tout vient des travailleuses et des travailleurs. Hein. J'habite à la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Je ne dis pas c'est uniquement les travailleurs, par exemple, qui doivent décider de où va l'industrie en France. Hein. Mais je dis que, par contre, ce n'est pas possible de décider ça sans prendre en compte le travail réel de ceux qui vont avoir cette tâche à mener. Et cela, ce que j'ai observé, c'est qu'ils sont justement prolétarisés. Et donc, il faut enrayer ce phénomène de prolétarisation. Ça, pour moi, c'est un combat politique qui est majeur. Je le prends par l'angle des professeurs des écoles, mais en réalité, il pourrait se prendre par l'angle de. Enfin, ça pourrait par ricochet toucher toutes les professions. Un métier qui est prolétarisé, il est de deux manières essentiellement. La première, c'est qu'il est précarisé d'abord, et donc il faut enrayer tout ce qui tend à précariser les profs des écoles. Évidemment, le salaire, hein, d'accord? Parce que plus tu as un salaire qui est petit, plus tu es enclin à accepter ce que Taylor appelait une part variable du salaire, un salaire différentiel que tu vas contractualiser pour l'exécution de tâches. Et donc, plus tu es soumis, si tu veux, à la prescription, plus tu es précarisé. Et idem sur la précarisation des carrières, donc des carrières qui sont de moins en moins protectrices, celles des fonctionnaires. Donc il faut s'attacher à réhabiliter les commissions paritaires, à moins individualiser les carrières, on va dire. Mais surtout, le volet essentiel de la prolétarisation, c'est celle qui a trait à la déqualification, hein, celle qui transforme le travailleur en exécutant d'une consigne qu'il n'a pas lui-même, dont il n'est pas concepteur. Et là, eh bien, il faut pas hésiter à lutter contre tout ce qui va tendre vers l'inflation de la prescription, et donc par opposition à défendre la liberté pédagogique, tout ce qui va aller contre la caporalisation des profs, hein, donc tout ce qui va tendre vers, par exemple, la souveraineté du Conseil des maîtres. Si je parle de liberté pédagogique et de souveraineté du Conseil des maîtres, c'est parce que c'est encore ce qu'on a. Donc, parmi toutes les batailles qu'ils ont gagnées, ils ont pas toutes gagnées. On a encore de l'existant. Voilà, l'inflation de l'évaluation, il faut lutter contre tout ça. Et évidemment, donc, c'est évidemment, de manière plus générale, il va falloir, dans un projet qui vise à une école démocratique, il faut absolument sortir des logiques qui sont celles de toute la fonction publique, d'autonomisation, de territorialisation, de contractualisation de la tâche. Toutes ces logiques-là, là, qui se sont imposées dans nos métiers, il faut vraiment non seulement tirer le frein à main, mais faire machine arrière. D'accord? Jusque-là, ça va pour tout le monde, j'imagine que tout le monde est d'accord avec ça. Et on pourrait mettre tout ça dans un gros package qui serait la volonté politique de permettre aux travailleuses et aux travailleurs dans ce pays de retrouver du pouvoir d'agir, ou ce que Karl Marx appelait de la puissance sociale, c'est-à-dire de faire histoire, quoi. Voilà. De faire histoire dans leur profession, dans leur milieu de travail, et en l'occurrence à l'école. Et alors, du coup, dans les recherches que j'ai menées, d'abord, c'est que ce qu'on observe, ce n'est pas spécialement moi, hein, c'est bien antérieur à moi. Toute l'ergonomie, la psychologie du travail, etc., ont montré que le travail, de toute façon, il résiste de manière naturelle à sa caporalisation, à sa prolétarisation, à sa mise sous tutelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit par exemple si vous avez lu L'Établi de Linhart, vous voyez ces travailleurs dans des chaînes automobiles qui finalement remontent la chaîne pour pouvoir gagner quelques minutes, en tout cas qui ne font pas exactement ce qui est prescrit, y compris dans les métiers qui sont aussi parcellisés que l'industrie automobile. Donc on peut imaginer que chez les professeurs, chez les enseignants, il y a cet espace encore possible de conquête de liberté. Et puis, il faut, à mon avis, se pencher sérieusement sur une question qui est qu'il y a des gens, des collègues, on a des collègues, des camarades souvent, qui, de manière ostentatoire ou pas, désobéissent quelque part à la prescription qui leur est faite, refusent de faire passer les évaluations, ne prennent pas d'élèves en APC, etc., etc. Et ceux-là, ils se font de plus en plus poursuivre, surveiller et punir par une administration parce que le libéralisme que nous avons, il devient de plus en plus autoritaire, quoi. Alors, ça, je ne saurais pas, si vous voulez, je ne vais pas prendre le temps de l'expliquer rapidement, mais probablement dans le livre de Grec, par exemple, on voit bien que cette inspiration autoritaire, elle est très forte aussi dans les politiques menées, quoi. Je veux dire, le Front National, c'est le Rassemblement National, c'est du déjà là, quelque part, dans sa manière de faire. Et puis, peut-être, hein, que politiquement, nous aurions un intérêt à créer un élan populaire pour l'école, pas uniquement la défense de l'école par celles et ceux qui font le travail, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais aussi que montrer que c'est un intérêt collectif, un bien commun qu'il faut protéger. Je pense que l'expérience qu'il y a en cours dans le 93, tout à l'heure, Capucine, tu parlais de parents qui défilent avec les enseignants, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Et pour moi, ça c'est significatif d'une voie dans laquelle il faut aller, hein, c'est-à-dire faire entendre que y a un réel besoin que la défense de l'école, elle se popularise, quoi, en tout cas, voilà. Et pour ça, évidemment, il y a aussi la possibilité, il y a aussi l'ambition de renforcer les collectifs, mais là, peut-être pas le lieu d'en parler, mais dans l'école, en tout cas dans l'école primaire, mais je pense dans le secondaire aussi, il y a pléthore d'associations d'éducation populaire, de mouvements pédagogiques qui jouent largement leur rôle, et bien sûr les syndicats qui les relayent. Il y a des chercheuses et des chercheurs aussi qui souhaitent rompre avec ces logiques-là et qui apportent d'autres voix, et je pense qu'il faut les valoriser. Et le dernier truc sur lequel je vais m'attarder 2 minutes pour arriver à cette société, cette école démocratique, l'idée c'est pour que la parole du travail soit entendable et pour que le travail réel puisse faire irruption dans nos politiques, dans nos mots d'ordre politique, dans nos programmes, etc. Eh bien, je pense qu'il y a nécessité de renforcer là où ils existent les collectifs de travail. Alors, un collectif de travail, c'est pas uniquement des gens mis à côté qui discutent, hein. Un collectif de travail, c'est un espace-temps qui assume la conflictualité. Donc, parce que la démocratie, bien, en fait, elle se joue, y compris dans le travail. Vous voyez bien que les travailleuses et les travailleurs, moi perso, à 16h30, j'ai fini de bosser, je suis plus prof des écoles, mais je suis aussi citoyen quand même. Je m'engage dans des associations, je vais voter, par exemple, bientôt, au mois de juin. Et donc, du coup, c'est important que dans mon expérience subjective du travail, je puisse faire l'expérience subjective aussi de la démocratie, donc de la conflictualité. Et donc, il faut qu'on arrive à entendre que les critères du bon travail, eh bien, ils se définissent dans les échanges, dans la dispute entre celles et ceux qui font le travail. Et peut-être se demander comment ça peut se traduire ça politiquement, cette exigence-là qui revient, si vous, qui est à contre-courant de la prolétarisation et qui reviendrait à dire que ben, quelqu'un qui tous les jours fait l'expérience de la subordination minute par minute lorsqu'il est au travail, eh bien, est plus prompt à accepter, y compris le fascisme, si jamais il devait arriver, puisque on est toute la journée des subordonnés, des exécutants. Donc, du coup, dans l'espace social dans lequel on va vivre après, on est aussi, on a intégré ces normes-là. Et donc, peut-être, ça serait une piste, celle que je propose, hein, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut, créer, dans l'organisation du travail, créer ces espaces-temps où les travailleuses et les travailleuses peuvent reprendre la main et donc définir les critères de bonne exécution de la tâche qui leur est proposée, peuvent fabriquer leurs propres outils, peuvent les éprouver, peuvent les améliorer, etc. Et donc, qu'ils soient moins exécutants d'une tâche. Voilà. En tout cas, c'est ma proposition à la discussion qu'il y aura tout à l'heure. Voilà. J'espère qu'elle a été claire.
Oui, elle a été claire. Elle va soulever, j'imagine, des discussions. Greg, à ton tour.
Oui, bah, je repars depuis cette conclusion particulièrement stimulante. Alors, manière un petit peu anecdotique, moi, je voulais partir sur le lancement de Laurence, qui est voilà, quelle utopie pour l'école, c'est du lourd. Il se trouve que j'ai été sollicité, là, je suis en train de rédiger ça, pour faire la préface d'une anthologie de science-fiction sur l'école dans le futur. Et en fait, bah, la vision, il y a plusieurs auteurs, hein, la vision, elle est très, très pessimiste. C'est-à-dire que quand on se projette dans l'école dans 10, 15, 20, 30 ans, les premières images qui viennent à l'esprit, bah, c'est le tout numérique, le contrôle, l'IA, le voilà, ou l'exclusion, la fin de l'école. C'est très compliqué de porter une utopie comme ça, positive sur l'école, et on est enfermé dans cette vision bah, catastrophiste ou en tout cas très, très inquiète. Alors, la pédagogie de l'inquiétude, c'était la formule d'Albert Thierry, donc elle est belle, mais on est dedans. Alors, comment faire, que faire bien, quelle école on veut? Alors déjà, quelle école on a? Aujourd'hui, on est pris entre deux projets en fait qui se superposent de plus en plus. Une école de la République, l'école républicaine telle qu'elle est définie, et non pas une école démocratique. C'est pas le terme qu'on utilise, c'est ce qu'on met en avant, c'est l'école républicaine. Et puis une école néolibérale et non pas une école émancipatrice ou une école de l'égalité et de la justice. Donc on voit bien en fait qu'on a ben, deux pôles et que La manière dont on va situer dans ces deux pôles, c'est peut-être ce qui peut nous servir de guide et nous servir de boussole. En rappelant que, puisque ma partie, c'est un petit peu l'extrême droite, en fait, l'extrême droite, elle ne lutte pas contre l'institution scolaire. L'institution scolaire, elle est déjà bien investie à la fois dans un conservatisme bien installé, etc. Et puis, comme disait Célestin Freinet, l'école de la République, c'est l'école aussi fille et servante du capitalisme. Donc, elle est déjà bien impliquée dans le projet néolibéral et ses orientations. Et ce qui est développé aujourd'hui sur la prolétarisation des enseignants, c'est tout au long de l'histoire de l'éducation, hein, on a cette volonté en fait, d'en faire des exécutants. Non, ce que visent les réactionnaires, c'est celles et ceux qui veulent changer cette institution. Et c'est eux leur cible, c'est les pédagogues en premier lieu, c'est les pédagogues, les syndicalistes, les historiens critiques, les sociologues, etc. Et c'est eux qui sont visés parce qu'ils ne se satisfont pas de l'école telle qu'elle est. Donc je pense que là, ça nous donne une piste sur nos différents combats. Il faut poursuivre sans relâche nos engagements militants, pédagogiques, de chercheurs, de sociologues, etc. Pour pouvoir ancrer nos résistances, développer et porter un autre projet qui ne peut pas être celui de l'école telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui, ni telle qu'elle nous a été proposée dans le passé. Alors, je reprendrai effectivement la formule de Fred et d'autres, hein, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons, qu'on pourrait décliner avec, c'est nous qui étudions, c'est aussi nous qui décidons. Et c'est nous qui avons nos enfants à l'école, et donc c'est aussi à nous de décider, et tout ça ensemble. Et en fait, ça a un mot. Alors, Laurence, très justement, tu parlais du livre super important de Francis Vergne et Christian Laval. En fait, ce qui pose dans cette révolution scolaire, c'est des temps de réunion. Hein, Fred y parlait de l'espace et du temps. Donc, quel espace on a pour penser l'école? Et quel temps on a pour penser l'école. Et mettre en place ces espaces et ces temps, en fait, ça a un nom, hein, c'est l'autogestion. Et donc, c'est comment avancer vers une école qu'on définirait non pas comme l'école républicaine, non pas, surtout pas comme l'école libérale ou néolibérale, mais comme une école de l'autogestion, une école autogestionnaire, sachant que c'est le vieux projet du mouvement ouvrier, c'est-à-dire que pourquoi éduquer les ouvriers, les ouvrières? Dans le mouvement international ouvrier du 19e siècle, c'est parce que c'est pour leur donner les moyens de gérer la société, puisque c'est ceux qui produisent, celles et ceux qui produisent, qui auront à gérer cette société. Donc, pour moi, c'est instaurer cette autogestion à tous les échelons. C'est de cette manière-là qu'on pourra porter un discours sur l'école. Je reprends la formule, non? Il ne s'agit pas de défendre l'école telle qu'elle est, et pas de la défendre pour ce qu'elle est, mais de la défendre pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et la penser dans cette perspective-là. Dans mon livre, en fait, j'essaie d'aborder cette question. Et je suis toujours un peu prudent sur qui construit les revendications. On ne peut pas arriver avec un catalogue comme ça, tout fait de revendications. Il faut que elles se construisent, il y a des choses qui vont apparaître, et du coup, je pense que ça serait très intéressant d'avoir le retour de Capucine sur, j'imagine qu'en AG, il y a des questions de stratégie, de lutte, d'organisation, etc. Et comment émerge aussi un projet sur l'école qui doit, à mon avis, se dessiner dans ces mobilisations. Plus elles durent, en fait, on voit que plus les mouvements s'organisent, plus ils s'ancrent dans la population, plus en fait émergent des perspectives éducatives, pédagogiques, sociales, autres, et que se croise comme ça ce projet de quelle école, quelle société, que forcément toute pédagogie est politique, et qu'aujourd'hui le projet politique et le projet pédagogique qui sont liés, c'est celui d'une pédagogie autoritaire et d'un système de plus en plus autoritaire, de plus en plus caporalisant, de plus en plus prolétarisant, etc., etc. Et que, à l'inverse, en plus de cette autogestion de l'organisation, il y a la question des savoirs qui a été posée, la question des savoirs polytechniques, l'opposition travail manuel, travail intellectuel qui est vraiment centrale, la question des savoirs critiques, parce que je pense que, en fait, bon, on sera peut-être tous d'accord, hein, ce n'est pas l'école qui va changer la société. C'est peut-être pas non plus la société qui va changer l'école. On a vu des expériences révolutionnaires où les choses changeaient, mais que l'école restait un petit peu en retrait. Mais en fait, elle peut outiller, elle peut armer celles et ceux qui la changeront. Et donc, quels sont les savoirs qu'on peut mettre en place? Quels sont les savoirs qu'on peut partager pour outiller les nouvelles générations qui, souvent, n'ont pas besoin de nous, hein, qui ont déjà beaucoup de. Beaucoup d'âmes, beaucoup de réflexions, mais quel rôle l'école peut jouer? Et moi, tu parlais d'écologie. Il y a quand même, je ne sais pas si on l'a assez pointé du doigt ou si ça nous a suffisamment interpellé en tant que personnel, c'est ce mouvement de grève de l'école pour les questions écologiques et pour le climat. C'est-à-dire que pour lutter, pour les luttes écologiques, qu'est-ce qu'a fait la jeunesse? Elle a quitté l'école. Il y a des phrases très fortes hein, de Greta Thunberg qui dit « Mais moi, je vais à l'école, on m'apprend des choses sur la science que personne ne respecte. » On sait ce que pensent les scientifiques. Je vais à l'école pour avoir des outils, pour comprendre le monde. Et en fait, bah, c'est tout le contraire qui est fait. Moi, je quitte l'école et je me mets en grève et je fais appliquer ces choses-là. Et là, on a aussi, de manière criante, eh ben, un échec de cette école qui est incapable en fait, d'être en phase avec la réalité, avec le quotidien, puis encore pire, avec l'avenir qui se dessine. Voilà, et pour en quelques mots, pour terminer, en fait, moi, je reste toujours fasciné par cet épisode. Alors, il y en a d'autres, hein, mais cet épisode de la Commune de Paris, du projet éducatif de la Commune de Paris, alors, c'est pas pour faire, voilà, c'était une référence historique, mais il y a quand même Henri Bélanger, à l'époque, qui dit que le but de l'éducation des communards et des communards, c'est que tout individu, tout travailleur, tout producteur puisse écrire avec passion et intelligence un livre sans quitter son établi. Et là, je pense qu'on a, le jour où on aura un ou une ministre de l'éducation qui nous dira, voilà, mon projet pour l'école, c'est ça, on aura bien avancé. Ou en tout cas, peut-être quand on sera là, on n'aura plus besoin de ministre et on pourra s'organiser et organiser l'école nous-mêmes avec l'ensemble de la population. Voilà. Merci à vous.
Merci à tous les trois et à Capucine qui va réintervenir après Samy. Donc, on vous a mis dans le chat, là, Mathieu et moi, là, les fonctions pour demander la parole. Donc, utilisez le petit onglet plus réaction, levez la main. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous passez par le chat. On vous demande d'essayer d'intervenir de manière relativement minutée. 4 minutes maximum, hein, au moins dans un premier temps, voilà, de manière à ce que on ait, puisse prendre un certain nombre d'interventions. Vas-y, Samy, je t'en prie.
Alors, rapidement, deux remarques et une proposition. Alors, la remarque, bon, c'est métaphorique, mais je l'emploie souvent, je suis marseillais, hein. C'est donc un match de foot. Et quand on ne peut pas gagner, ben, il faut au moins défendre. Alors, évidemment, on me dira, oui, mais si on ne fait que défendre, on ne peut jamais gagner, c'est certain. Mais il faut tenir compte du rapport de force. Et la question de la défense aujourd'hui est une question qu'on ne peut pas négliger. Et il faut trouver des mots d'ordre qui soient des mots d'ordre suffisamment mobilisateurs pour faire comprendre aux gens ce qui est en cause. Par exemple, je ne sais pas si c'est un bon mot d'ordre, hein, mais l'idée de dire, est-ce que vous accepteriez que vos enfants soient à vie dans un groupe de nuls? Et c'est vrai pour les profs aussi, hein, parce que c'est un vieux truc, hein, les profs, j'avais déjà mis ça un jour. Les gens vous disent toujours, moi j'aurais bien aimé vivre au temps des princesses. Oui, parce qu'elles pensent qu'elles seraient princesses, mais pas servantes violées dans un coin, bien sûr. Les profs, c'est pareil. Il y a beaucoup de profs qui sont contre le collège unique parce qu'ils ont envie d'avoir les bons élèves. Mais il y en aura qui pourront, et pour eux, ce sera très dur, ce seront les élèves plus difficiles. Donc, première chose, réfléchir quand même dans la période où nous sommes maintenant à la question de la défensive, où on ne peut pas répondre simplement en disant on ne va pas y arriver si on n'a pas quelque chose à proposer. Il y a une question de défensive en tant que telle. Deuxième remarque, c'est sur les fonctions de l'école en général, il y a un débat entre nous qu'il faudra avoir. Hein. J'ai déjà, bon, la formule que j'utilise, c'est que bon, une politique scolaire, c'est qui on scolarise, qu'est-ce qu'on enseigne et comment on le fait, donc question pédagogique. Bon, qui on scolarise, on voit bien maintenant. Hein. On scolarise tout le monde de la même manière, parce que alors, séparément, c'est pareil aussi pour la mixité, telle qu'elle a été instaurée. Je signale que la commune de Paris n'a pas installé la mixité, donc bon, c'est quand même quelque chose. La première école mixte que je connaisse, moi, dans l'histoire, c'est celle de Kouskaya. Hein. Mais bon, donc c'est des questions importantes, celles qui on scolarise, évidemment. Qu'est-ce qu'on enseigne est une question évidemment aussi très importante. Dans les références qui sont utilisées, il y a bien sûr celle de Marx avec ben Marx et d'autres hein, sur la question de l'enseignement technologique en général, abolir la différence entre travail manuel et travail intellectuel. Bon, il y en a une autre, celle de Gramsci, qui consiste à dire qu'il faut doter le prolétariat des outils égaux à ceux de la bourgeoisie. Et ce n'est pas exactement le même point de vue qui ne peut se résoudre concrètement que par l'idée, enfin, la chose sur laquelle on bute, après j'arrive à la proposition que je veux faire, sur laquelle on bute, c'est que on arrive scientifiquement, il n'y a pas de savoir qui soit par eux-mêmes ouvre sur tous les autres savoirs. Sauf peut-être la question de la relation à l'écrit. C'est bien pour ça d'ailleurs que toutes les écoles du monde font au moins ça, font au moins l'alphabétisation, parce que sinon ça donne vraiment un outil général. Mais tout le reste, c'est les outils partiels. Voilà. Et pourtant, il faut faire un choix, parce que l'école ne peut pas, ne peut absolument, surtout si on passe au-delà du primaire, ne peut pas scolariser tous les savoirs de l'humanité. C'est une toute petite partie qui est scolarisée, et ce choix est un choix extrêmement difficile, et on ne sait pas comment le faire démocratiquement. Et enfin, donc c'est un débat à avoir hein, pour plus tard. Et enfin, dernière chose, la proposition. Bon, c'est un peu triste à dire, mais il y a 27 ans maintenant, on a fait un colloque à Marseille qui s'appelait Défendre et transformer l'école pour tous. Bon, ça a été un triomphe, comme vous voyez, puisque on n'y est pas arrivé. N'empêche que je ne vois pas d'autre solution que celle-là. C'est-à-dire faire en sorte d'avoir un rassemblement de réflexion qui mobilise tous les syndicats, les associations de parents d'élèves, les chercheurs, pour faire en sorte de répondre à cette question, défendre et transformer l'école pour tous. On l'a raté parce que les rapports de force, mais je pense que c'est mûr pour ça quand même maintenant, pour faire en sorte bon, d'en finir en plus avec une chose qui n'a pas été dite, mais je termine juste ma dernière phrase, avec le fait qui, moi, me scandalise absolument, c'est que le projet qui nous est proposé là tout, maintenant, là, c'est les groupes de niveau et tous les trucs comparables, c'est purement idéologique. Il n'y a aucun travail scientifique qui soutienne ça. Avec mes camarades, j'ai demandé est-ce qu'il y a des références? Manifestement, il n'y en a pas ou très peu, très contestables. Tous les travaux, vous le savez bien, sont contre cette orientation-là. Et il faut le faire vivre d'une manière plus politique en disant bon, le pragmatisme, il n'est pas de leur côté, c'est pas vrai. Et la réflexion sur l'école que l'on souhaite, bien sûr, ne peut pas, je termine par où j'avais commencé, ça ne peut pas être que la défense de l'école, mais il y a des choses à défendre quand même. Et imaginer une école pour le futur, ben, il faut y réfléchir tous ensemble. Ce n'est pas impossible, on a tenté de le faire, il faudrait le refaire encore une fois.
Merci Samy. À toi Capucine.
Oui, moi je voulais revenir sur la manière dont ce que développaient Frédéric Grimaud et Grégory Champa, en fait, me semble vraiment faire écho en fait à ce qui se passe à la lutte du 93 en ce moment et dans ce qui fait naître la colère. C'est-à-dire, je trouve que cette idée de cette question subjective de la perte de sens de l'activité d'enseignement, je pense qu'elle est très très forte. C'est-à-dire, il y a beaucoup par exemple, de professeurs des écoles de CM2 qui disent, mais nous, on ne pourra pas faire ça, trier les élèves pour qu'ils intègrent. C'est contradictoire avec le cœur même, enfin, le cœur même, le sens même de notre métier, qui est de faire progresser et pas de trier. Mais il y a aussi cette idée d'avoir une mission à accomplir et d'être mis matériellement et pédagogiquement dans l'incapacité de la remplir, que ce soit parce qu'on a une classe à 35 élèves et dont des élèves porteurs de handicap n'ont pas d'AESH, donc on est mis dans l'incapacité de remplir la mission, ou parce que tout simplement, il n'y a pas de vidéoprojecteur, les rideaux ne marchent pas, la fenêtre ne ferme pas, et qu'en fait, on ne peut pas faire vraiment son cours. Et que ça c'est usant à la longue et que ça crée en effet un sentiment de dépossession de son métier lui-même qui est très fort et je pense qui effectivement peut au quotidien donc créer beaucoup de désespoir, mais du coup que la lutte permet aussi de renverser ce sentiment pour en faire un moteur d'action. Et aussi, autre point, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur la montée de l'extrême droite, ce qui me frappe aussi, mais c'est pas nouveau, mais là, c'est la question de la répression du mouvement. Donc, chez les élèves, hein, les élèves, lors des blocages qui sont pris en photo, convoqués, etc., c'est les parents d'élèves qui reçoivent des mots des établissements ou des collèges pour leur dire que le motif collège désert appelé par la FCPE sera considéré comme non justifiable, non justifié, ou des collègues qui sont convoqués pour certaines actions militantes comme à Blesse-Saint-Barth à Sevran suite à la vidéo, juste pour avoir dit à l'écran qu'on n'a pas été remplacé pendant ce congé maternité. Donc cette question-là de la répression de la vie est assez forte. Et donc, ah oui, et juste cette question de dépossession, je trouve qu'il y a aussi ce que ça produit chez les élèves. Et notamment, il y a une mère d'élève qui a dit lors d'une réunion, je trouve ça très fort, qui dit en fait, mon enfant, il va dans un établissement qui est vraiment dégueulasse, j'y suis allée pour la réunion parent-prof, mais je ne comprends pas qu'on puisse aller dans ces conditions. Et en fait, il n'en parle pas le soir, son enfant n'en parle pas le soir, et elle dit en fait, on les a habitués aux moches. Et je trouve ça assez fort, quoi, de dire oui, c'est aussi ça, c'est en fait de faire comprendre aux enfants et aux élèves qu'ils ne méritent pas mieux, quoi. Ils sont habitués aux moches, quoi. Et donc, l'idée que c'est inacceptable et ce que ça mobilise, je pense que c'est à la fois, du coup, bah, comme vous disiez, la défense de l'école publique. Jeudi dernier, là, quand il y a eu ces manifs convergentes vers Bobigny depuis tout le département, le slogan, c'était Nous ne laisserons pas détruire l'école de la Seine-Saint-Denis, donc la défense de l'école publique. Et puis en même temps, je pense que l'utopie, elle se construit aussi dans la lutte, parce qu'à partir du moment où on se retrouve, et du coup on se retrouve à faire par exemple une réunion où on a eu ça, où on est 80 profs, élèves, enseignants dans une salle, et on se dit, bah voilà ce dont on ne veut pas, nous on ne veut pas de ça, mais du coup quelqu'un dit, mais alors du coup qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut nous? Et d'un coup là, dans cette configuration de la lutte, je pense que assez vite, on passe de la défense à l'utopie, parce qu'en fait, on commence à imaginer ce qu'on veut, y compris dans un changement du rapport entre parents, profs et élèves. Et du coup, là, il y a quelque chose, effectivement, qui relève un peu de l'autogestion, ouais, et qui où de nouveaux possibles commencent à émerger.
Caroline, c'est à toi.
Eh ben, bonsoir à tous. Déjà, ravie de ces échanges. Et j'espère que vous allez m'excuser pour un petit écart dans les propositions là, collectives ou qui est en train de se dessiner. Je voudrais faire un petit écart par le passage au lycée professionnel, par le lycée professionnel, parce que j'ai bien entendu les interventions, par exemple, qui nous disaient que le RN avait un projet d'orientation précoce. Et je voudrais vous faire part de l'expérience du lycée professionnel, qui n'est pas du tout déconnectée du système productif, hein. Donc, je suis désolée de revenir terre à terre et peut-être de désidéaliser l'enseignement. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points. Le premier, c'est que en lycée professionnel, comme dans beaucoup de secteurs, le rapprochement avec le système productif, il passe par l'approche par compétences. Et l'approche par compétences, c'est Lucie Tanguy qui a montré dès les années 90 que ça se mettait en place parallèlement dans le système productif et dans le système éducatif. Et ça vise, grosso modo, à avoir un langage commun entre système éducatif et système productif. Les New Public Management, là, qui ont été soulignés, l'ont accéléré. En France, on est particulièrement bon élèves sur la mise en place de ces approches par compétences, où on nous explique toujours que c'est dans le cadre de l'OCDE, etc. Mais en fait, des chercheurs d'école ont bien montré que la France était très bonne élève, bien plus que ce que l'OCDE demandait. Donc, en fait, je refais un lien avec la volonté d'orientation précoce du RN. Le lycée pro, c'est toujours un peu le laboratoire des expérimentations. Et il y a l'entrée, alors depuis la TVP, il y a l'entrée de l'apprentissage qui devrait être démultiplié en lycée professionnel. Le tout, hein, les grilles de compétences permettant de valider des compétences par des enseignants, des compétences professionnelles. C'est le lien avec l'approche par compétences. Alors, j'attire votre attention, je ne sais pas si c'est lueur d'espoir ou pas, sur deux choses. Ce qui nous fait tilter, et ce qui fait tilter des collègues avec lesquels je discute et pas qu'à l'échelle parisienne, c'est qu'on craint qu'à terme, l'apprentissage devienne la norme en lycée professionnel. Alors, le raisonnement est simple. Aujourd'hui, les stages sont rémunérés par les subventions publiques. Quand il n'y aura plus l'argent magique, les stages ne seront plus rémunérés. Donc, on aura créé une demande. Et l'apprentissage récupérera le gâteau. Alors, beaucoup de chercheurs n'y croient pas parce que nous, on enverrait en apprentissage des pré-bacs et les pré-bacs ne sont pas forcément beaucoup demandés en apprentissage. Mais il y a la crainte de pas mal de collègues que l'apprentissage devienne la norme. Qui dit apprentissage dit collusion entre enseignants et formateurs. Dans les CFA, ce sont des formateurs. C'est-à-dire que moi, j'enseigne les lettres histoire en lycée pro, je suis certifiée. Mais en CFA, ça peut être un formateur recruté par un chef, par un formateur, un coordinateur d'équipe. Alors, ça, c'était le premier point. Puis, je voudrais pas faire trop longue et sortir sur une note d'espoir. Jusqu'au remaniement Attal, on était justement sous tutelle ministre de l'Éducation nationale, ministère du Travail, par Carole Grandjean. Et j'ai appris que Grandjean n'était pas reconduit sous le gouvernement Attal. Et du coup, je me demande qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale des lycées professionnels. Et je pense qu'on est redevenu dans le giron de Belloubet. Mais j'ai pas vérifié. Donc, est-ce qu'il faut voir ça comme une tentative du néolibéralisme de s'être dit, bon, on va créer une main-d'œuvre, de toute façon, les élèves de lycée professionnel, hein, c'est une main-d'œuvre pas chère, c'est une main-d'œuvre qui peut servir en tension, c'est facilement formable, donc est-ce qu'on tente cette expérience, alors que le CEREC lui-même hein, expliquait bien que l'apprentissage avant le pré-bac, ça fait pas recette, donc est-ce qu'on a affaire à un recul du gouvernement sur des mesures quand même qui ont été assez chaotiques, hein, pour reprendre une expression qui a été dite avant. Et est-ce qu'on voit un recul ou est-ce qu'il y a une autre stratégie? Voilà. Et dernière chose pour conclure, c'est que bah, dans nos plateformes et dans nos revendications, tant que ce soit dans le mouvement du 93 ou ce qui pourrait se dessiner de politique plus tard, bien faire attention à l'évolution du lycée professionnel qui ne sorte jamais du giron de l'éducation nationale, puisqu'on ça c'est dans son histoire, il a mis 100 ans à s'incrémenter dans le système éducatif et donc à ne pas être que système productif. Voilà.
Merci Caroline. Je me suis inscrit du coup, mais n'hésitez pas à le faire également. Bon, Caroline a abordé le sujet de l'enseignement professionnel, c'est bien, hein, puisque effectivement, d'une certaine manière, ce qui l'a affecté hein, avec les réformes engagées l'an dernier, donc par Grandjean, par ailleurs, aussi significatif hein, que ce qui se passe actuellement sur le dossier, en particulier des groupes de niveau, hein, d'une rupture avec effectivement un horizon démocratique et égalitaire de l'école et de l'éducation dans le pays. L'élément central, à mon sens, c'est sa déscolarisation. C'est effectivement, c'est le retour à une logique qui veut que l'enseignement professionnel sort en fait hein, du droit commun de l'éducation, de l'école, que ses finalités sont effectivement de l'ordre de l'insertion professionnelle à court terme, de la réponse à des besoins immédiats formulés à l'échelle globalement locale, régionale par le patronat. même s'il ne faut pas idéaliser ce qu'a représenté l'enseignement professionnel public avant la série de réformes que nous avons subies au cours des 10 dernières années, de ce point de vue-là, il y avait quand même eu des progrès qui avaient été réalisés, hein, dans le sens d'une intégration de cet ordre d'enseignement au système éducatif, avec la création du bac. La formulation quand même d'objectifs en termes de transmission, hein, d'une culture générale, bon, qui n'est pas celle effectivement du lycée général ou du lycée technologique, mais qui avait de vrais contenus. Et c'est par rapport à ça effectivement que les reculs qui se produisent actuellement sont particulièrement significatifs. Donc effectivement, c'est un sujet qui est qu'il faut remettre au cœur, hein, de nos discussions. Moi, je voulais revenir sur l'intervention de Samy, et y compris en reliant dans le débat ce qui a été dit par Laurent sur un horizon désirable, les propositions qu'a fait Greg et les remarques, y compris ouais, les remarques de Samy, qui ont aussi une portée critique, hein, je crois, sur ces sujets-là. Moi, je suis d'accord sur l'idée que la priorité, c'est aussi de résister. Je pense que, y a un enjeu de résistance. Je pense, par contre, que cet enjeu de résistance, il doit être articulé à la formulation quand même d'un minimum d'horizon, justement, de projet. Alors, à propos des propositions de Greg, hein, bon, du contenu autogestionnaire, en gros, des propositions de Greg, Laurence disait encore plus utopique que moi. Donc, moi, je partage la réserve sur l'idée que c'est cette radicalité-là utopique qui peut contribuer à construire, hein, le mouvement de masse, y compris le mouvement social. Fred parlait, hein, d'un mouvement social pour l'éducation qui traverse à la fois les professionnels de l'éducation, mais la société dans son ensemble, les usagers, les élèves, les parents. Je pense que ce n'est pas forcément, effectivement, sur ces perspectives-là, immédiatement, que ce mouvement peut être construit. Je crois plus que, effectivement, c'est autour d'enjeux, alors peut-être plus généraux, moins précis, hein, en termes de contenu pour l'école, mais autour de la défense de la démocratie, de la démocratisation scolaire face effectivement à une offensive de dédémocratisation autour du thème de l'égalité d'accès, hein, aux formations, au plus haut niveau, que ce mouvement social peut être construit. Voilà. Et je pense que, y compris, c'est dans le lien aussi avec une bataille centrale, hein, et plus générale sur les services publics et sur l'horizon, hein, qu'on donne au service public. Parce que ce qui se passe à l'école, d'une certaine manière, c'est central, mais correspond aussi à ce qui s'est passé à l'hôpital, ce qui s'est passé à la protection judiciaire de la jeunesse, ce qui se passe à l'aide sociale à l'enfance. C'est globalement une destruction de l'État social. Et donc, c'est autour du thème de la reconstruction, hein, bon, d'un projet social de l'État, enfin, des politiques publiques, à mon sens, qu'on peut aujourd'hui construire de large front. Et je ne crois pas forcément sur la base comment dire, même si moi je peux partager, je conclus là-dessus, hein, beaucoup de choses avec toi, Greg, sur l'horizon autogestionnaire. Je ne crois pas que ce soit sur la base d'une différenciation entre un horizon républicain, démocratique, progressiste, qui peut parler, y compris encore, hein, à une partie de la population, et un horizon effectivement peut-être plus utopique et plus autogestionnaire que. Ce n'est pas sur la base de ces différenciations-là, je pense, que les choses vont se jouer fondamentalement. Mais c'est un débat et j'imagine que tu auras des éléments de réponse à nous donner là-dessus. Olivier, c'est ton tour.
Moi, je reviens quand même sur. On a une discussion aussi autour des questions politiques. Hein, je dirais, je trouve que la première chose qui m'interroge un peu, c'est que bon, tu as rappelé tout à l'heure que nous étions GES au sein de LFI. Bon, je pense que aujourd'hui, LFI, elle intervient peu sur la question de l'école. Bon, c'est sûr que il y a la campagne européenne qui est engagée et peut-être que c'est d'abord la campagne des européennes qui peut mobiliser l'énergie de LFI, mais je pense qu'on a besoin quand même de dire qu'il y a là quand même un truc, à mon sens, central, quoi, sur une question politique centrale sur la question de l'école, parce qu'il se joue plein de questions sur le monde de demain, certes, mais sur les attaques que cela mène aujourd'hui et qui représentent là pour le coup. La fin du collège unique, bon, c'est ce qui est en train de se jouer là aujourd'hui avec la mise en place des groupes de niveau. C'est-à-dire, et donc une réponse, moi je pense, politique d'urgence sur la question de l'école aujourd'hui qui peut être entendue par des gens. C'est-à-dire, et donc moi je soutiens quand même ce qu'a dit Samy tout à l'heure. Enfin, quand je dis quand même, c'est une expression un peu bretonne pour ponctuer. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a, comme dans le 93, un truc d'urgence à faire sur, faut stopper ça, dire, et ça passe par quelque chose qui stoppe cette histoire de la remise en cause du collège unique. Il faut bien le prendre par un bout. Et y compris, je pense qu'on peut expliquer de façon très, très simple que, bah oui, est-ce que tu as envie, toi, que ton enfant il soit assigné pour le reste de sa scolarité dans l'endroit où il n'y a aucune perspective pour lui, sinon que de retourner bah, ou de rester ou de d'être dans l'endroit où on n'apprend rien, où on fait rien, etc. Enfin, parce que c'est ça en fait les groupes de niveau. Et puis je crois qu'on a des éléments parce que on sous-estime aussi. Voilà, je pense qu'il faut pas se laisser complètement embarquer par le fait. Bon, on a une discussion au sein de la commission école sur sur quoi il s'appuie? En fait, il s'appuie sur rien pour dire que c'est bien les groupes de niveau. Il n'y a rien du tout qui dit que c'est bien. Mais par contre, il y a une histoire des groupes de niveau. Quand on regarde de près, ça a déjà existé. Quand il y a eu la mise en place de la réforme Habi sur le collège, très vite, il y a eu la mise en place de fait de ce qu'on appelait les groupes de niveau matière. Et comment cette expérience qui a été conduite, en gros, dans les années 80, quoi, au début des années 80, a conduit au fait que très rapidement, tout le monde a vu qu'à partir du moment où on mettait en place des groupes de niveau matière, les enfants, les jeunes qui étaient dans ces groupes de niveau matière y restaient. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans les groupes considérés comme les plus faibles restaient dedans. Et quand il y avait. Quelque chose qui bougeait. Finalement, c'était pour remettre en place des classes de niveau dans les collèges qui étaient plus ou moins identifiées par les familles comme ici, c'est la sixième qu'il faut prendre parce que c'est la meilleure, quand on peut y arriver, puis les autres, c'est les sixièmes les moins bonnes. Donc, on a quand même aussi une expérience de ce truc-là. Et on sait que ça marche, enfin, ça marche pas s'il s'agit de répondre à la question de comment. On discute de l'hétérogénéité à l'école, etc., etc. Donc, il y a pour moi un truc d'urgence à dire. Comment on se bagarre contre ce truc-là? Il y a peut-être un moment, puisque bon, la bagarre en 93 nous montre, c'est possible d'avoir une bagarre qui remet l'école en disant c'est l'école qui permet de scolariser le plus grand nombre dans une école commune, etc. Dire. Et puis, c'est vrai que ça n'empêche pas de discuter de l'école qui serait la nôtre dans, en gros, une société socialiste, écologiste, féministe. C'est dans les moments des grèves qu'on arrive à en discuter. Mais je crois que ça, faut qu'on arrive à se dire ça. Et c'est un peu une interpellation sur, il y a besoin d'activer ça à un niveau aussi politique, y compris dans LFI. Je pense que les députés, etc., ils pourraient intervenir. Il y a bien des députés dans le 93.
Merci Olivier pour cette intervention. Je n'ai plus d'inscrits ou d'inscrites. Je sollicite une dernière fois les participants et participantes. Et si personne ne veut parler, nous allons donc nous acheminer vers les conclusions. Eh bien, écoutez, nous allons donc conclure.
Je m'y colle. Je me souviens plus, c'est on fait tous les trois des conclusions ou je me souviens plus ce qu'on a dit.
Conclusion-réponse, hein,
Ouais,
il y a eu des
ouais.
éléments, voilà,
Ouais, voilà,
vous faites comme vous le sentez, vous
on
prenez le temps
refait.
de dire ce que vous avez à dire,
Ouais,
hein, avant de se quitter.
on refait un dernier round. Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis partie de l'horizon parce que je savais qu'on allait parler beaucoup de la défense et de la résistance immédiate. Et mon idée n'était pas d'opposer les deux. Mon idée était de rappeler que il fallait cheminer avec les deux. Et si je prends ce que tu disais, Emmanuel, je suis d'accord, on ne construit pas un mouvement de masse en brandissant des horizons utopiques, mais force est de constater que la défense, on en fait beaucoup depuis de très nombreuses années et qu'on n'est pas non plus encore super au point sur la construction du mouvement de masse. Donc je me dis, tentons une articulation. C'est ça qui m'intéresse. L'idée, c'est pas de substituer la question de l'horizon et des propositions à celle de la défense, parce que c'est ce que je disais quand je parlais de double détente, hein. On n'a pas le choix, hein. Il faut y aller, il faut être particulièrement défensif, et je crois qu'on est quelques-uns, quelques-unes à le faire, hein, sur toutes les questions que vous avez soulevées. Est-ce que tu veux que ton enfant reste toute sa vie bloqué dans le couloir des nuls? C'est par exemple l'objet de la tribune que j'ai publiée ce matin. Donc tout ce travail d'explicitation et tout ce travail, encore une fois, de défense active, on le fait. Mais parfois, on le fait au détriment de la boussole. Voilà, c'est-à-dire de ce qui nous meut. Et moi, j'étais très interpellée par ce que disait Greg sur le fait que ce livre de science-fiction ne projette que des modèles ultra sombres et négatifs de l'école. C'est bien que là aussi, on a laissé la place vacante pour penser justement des horizons un petit peu émancipateurs et un petit peu stimulants. Voilà. Et donc, je dis, c'est cette place-là qu'il faut qu'on occupe. Maintenant, ce que je relève aussi de ce que vous avez toutes et tous développé, c'est que je vais reprendre l'expression de laboratoire. Caroline parlait de laboratoire pour le lycée pro et on pourrait, je pense, Capucine, parler de laboratoire aussi pour ce qui se passe actuellement dans le 93. Donc, nous avons deux laboratoires, ce qui est assez intéressant, parce qu'on va pouvoir du coup observer ce qui s'y passe et puis peut-être partir de là, partir du local, partir de cette échelle-là pour politiser et pour monter un peu en généralité. Dans le 93, ce que disait Capucine, qui me semble particulièrement intéressant et qui était déjà le cas en 98, c'est la question des alliances, et notamment donc des alliances avec les parents, et des alliances qui provoquent ce que je pourrais appeler, mais alors tu me rectifies si tu n'es pas d'accord avec la formule, mais une conscientisation politique et militante des parents autour de cette cause là, qui est la cause de l'école, et autour aussi de la question matérielle, et ça c'est un truc qui m'est particulièrement cher, hein. La question notamment du bâti scolaire, ça fait plusieurs années, hein, déjà sous le Covid c'était le cas, qu'on voit se politiser la question du bâti scolaire, et tu le rappelais à fort juste titre, hein, c'est-à-dire que là on a la matérialisation du non-accueil de ces enfants et de l'indignité dans laquelle on les accueille avec ce que décrivait Capucine, c'est-à-dire aussi comment dire, cette habitude, hein, on s'y habitue, c'est-à-dire qu'on ne le voit même plus. Voilà. Et je trouve intéressant comme premier lieu d'observation, comme premier laboratoire d'observation, qui est cette conscientisation politique qui se fasse par les alliances. Donc il y a les parents, on pourrait réfléchir aussi à d'autres types d'alliances. Hein. Par exemple, Fred parlait tout à l'heure de l'éducation populaire. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait certaine que l'éducation populaire aujourd'hui soit véritablement arrimée à tous les débats autour du système éducatif, mais en tout cas, je suis certaine qu'elle devrait l'être. Voilà. Donc, ce développement des alliances, ce développement aussi de la politisation à travers le biais matériel. Le deuxième laboratoire, c'est le laboratoire de lycée pro. Alors ça, pareil, hein, merci Caroline de le rappeler. Ça me paraît particulièrement, comment dire, essentiel et pour moi, historienne d'ailleurs, tout à fait intriguant. Hein. J'ai un autre élément de langage, comme je disais, tiens, on a mis un siècle à virer les enfants des usines et aujourd'hui, ou les écoles des usines, parce qu'on avait des écoles d'usines, hein, et aujourd'hui on fait rentrer les usines dans l'école. Même si c'est pas les usines, c'est l'entreprise. Hein, mais voilà. Donc on a effectivement un moment de régression là qui s'observe dans le lycée pro qui est assez incroyable. Et puis surtout, comme tu le disais très bien, c'est ce vaste mouvement de délestage de l'éducation nationale qui est au fond l'accomplissement du projet de tri social, c'est-à-dire que l'éducation nationale se charge du tri et une fois que le tri est fait, le marché et le patronat se chargent du reste et voilà, du reste du parcours. Et on parle là d'enfants qui, pour l'instant, ont 15 ans, mais vu ce qui se profile, effectivement, risquent d'en avoir 12, 13, 14. Voilà. Donc, oui, utilisons ces deux laboratoires justement comme des lieux d'observation de la possibilité d'articuler le court terme et le long terme. Et donc, la défense sur le terrain de foot et la préparation de la saison suivante.
Excellente conclusion. Allez, vas-y, Fred, on respecte les ordres, comme ça.
Bien sûr, pas de souci. Ok. Alors, moi aussi, je vais filer la métaphore de Samy. Non, je plaisante. Moi aussi, je suis Marseillais, mais je ne comprends rien du tout au foot. Je ne sais pas s'il faut défendre ou attaquer. Par contre, je fais de la boxe et je sais que la défense et l'attaque, c'est lié. À un moment donné, on ne peut pas être sur une posture défensive sans penser ce qu'on va proposer. Alors, j'ai entendu dans la discussion que la question de l'école était en ce moment peu présente dans LFI, ou LFI était peu présente sur les questions scolaires. Je ne sais pas comment ça se pose, cette question-là. Moi, elle m'intéresse, et de le comprendre, je ne sais pas comment la caractériser, mais de mon point de vue, il faudrait que quand même pas se contenter d'une question de l'école, mais d'une question tout court du travail. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans mes propositions, hein. C'est pas uniquement penser l'école avec les profs, mais ça pourrait être aussi penser l'agriculture avec les paysans, ou je sais pas, enfin, en tout cas, faire mieux articuler ces deux choses. Alors, j'ai beaucoup développé la question, en disant que c'est parce que quand on est un travailleur et qu'on fait l'expérience de la subordination, quand on sort de notre milieu de travail, on est aussi un citoyen, et du coup, on est plus prompt à faire l'expérience de la subordination. Et en fait, en écoutant les interventions, je me dis, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais il y a peut-être aussi le mouvement inverse, hein, c'est-à-dire que le citoyen, il va à l'école. Il va, pardon, il va au travail, et qu'au travail, il a peut-être aussi besoin de porter un idéal de justice, de démocratie, en tout cas des valeurs, hein, d'égalité, d'écologie, comme les définissait Laurence tout à l'heure, et qu'au bout du bout, plus personne, enfin, de moins en moins de gens veulent faire un bullshit job, en tout cas un job qui est par accord avec des aspirations démocratiques, égalitaire, écologique, y compris dans l'expérience du travail. Et peut-être que c'est un point sur lequel on devrait réfléchir et s'accrocher à ça. Parce que cette aspiration des gens à non seulement à bien vivre, mais aussi à bien faire son travail, elles sont les mêmes, et je pense qu'on ne les lit pas assez dans nos politiques. Voilà, ça pourrait être ma conclusion, ça serait d'aller vers une meilleure articulation entre cette aspiration des êtres humains à bien vivre, voilà, les jours heureux, tout ce que vous voulez, là, je reprends des thématiques plutôt citoyennes, et des aspirations à bien travailler, c'est-à-dire à travailler aussi en direction d'une société plus égalitaire, plus écologique, etc., etc. Et peut-être qu'on aurait un intérêt à mieux se pencher sur ces allers-retours possibles entre les deux espaces qui occupent une grande partie de notre vie. Voilà pour moi.
Très bien, Greg, c'est ton tour. C'est toi qui as le mot de la fin. Tu peux y aller.
Ok, alors je vais essayer de pas trop m'éparpiller, mais il y a quand même eu des interventions ou des échanges dans le chat où je me dis des petits points pourraient alimenter la réflexion, et puis aussi bah voilà, essayer de faire une synthèse. C'est toujours impossible de conclure sans faire une pirouette, mais en fait je me disais, mais elle est où l'utopie? Si on nous avait dit il y a 2 ans que les élèves en France porteraient l'uniforme, si nous avait dit qu'il y aurait plus de collège unique, si on aurait répondu c'est de l'utopie, hein, une dystopie, mais voilà, qui aurait cru il y a à peine 2 ans ou 3 ans, l'accélération dans laquelle on se trouve sur tout un tas de sujets, dont celui de l'école, fait que bah, les possibles, ça nous démontre en tout cas que les possibles sont toujours là, et nous on est là pour faire émerger ces possibles. Moi, je me prononcerai pas sur LFI et l'école, mais sur le mouvement social et l'école. Et une des choses qui m'a marqué, c'est par exemple les universités d'été du mouvement social, où en fait la question de l'école, de la pédagogie, de l'éducation, elle est de moins en moins présente. Et c'est vraiment un recul, et Elle n'apparaît plus dans nos horizons, dans nos discours, que il faut des moyens, et c'est indispensable, hein. Faut pas donner un contresens à ce que je dis. Mais en fait, où est la critique de l'école? Parce que le mouvement social, le mouvement ouvrier, les Fresnel, les Paulo Freire, les voilà, le mouvement syndical, il s'est construit aussi à travers une critique de l'école telle qu'elle fonctionne. Et donc, il faut pas qu'on abandonne ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'articule pas avec les revendications immédiates et voilà, bon, c'est une définition du syndicalisme qui marche sur ces deux jambes, mais vers où on va, ça c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ah oui, c'est ça. Et c'est pas parce qu'il y a un mouvement social, c'est pas parce qu'il y a des luttes que on est épargné par un certain nombre de réflexes, on va dire conservateurs ou réactionnaires. Moi, en fait, j'avais écrit un bouquin avant sur l'école des républicains parce que après le mouvement de 98 en Seine-Saint-Denis, il y avait ce mouvement contre Claude Allègre qui avait pas mal mobilisé. Et dans ce mouvement, il y avait une partie du discours qui était particulièrement réactionnaire, c'est-à-dire que un certain nombre de réformes contre lesquelles on s'opposait étaient avancées, un horizon imaginaire qui c'était mieux avant, c'était etc. Et donc il faut qu'on ait aussi cette perspective-là, voilà, dans l'horizon. Dans le chat, il y a eu un, bon, je sais pas, j'ai le temps, j'ai 1 minute. Il y a eu un petit échange pour la Finlande. Je vais quand même dire. Où en est le niveau de débat scolaire d'une certaine gauche? Là, vous allez me dire, ouais, c'est une certaine gauche, mais sur les questions scolaires. Dans le livre, je cite Jacques Julliard, qui n'est plus parmi nous, mais voilà. Et cette dérive d'une gauche qui a Jacques Julliard, il a quand même écrit hein, sur le syndicalisme révolutionnaire, Fernand Pelloutier, etc. Et dans son livre qui s'appelle L'école est finie, voilà ce qu'il écrit, puisqu'on a parlé de la Finlande, voilà ce qu'il écrit sur la Finlande. Allons plus loin, puisque nous sommes là pour tout dire. Si l'école de ce pays, c'est là son mérite et son destin, n'était pas lourdement pénalisée à cause de la présence d'enfants d'immigrés non francophones qui souvent ignorent tout du français, bon là c'est le pléonasme, hein, son classement international remonterait singulièrement et rejoindrait sans doute l'exemplaire, la chimérique, la bienheureuse Finlande à qui les pédagogistes un peu truqueurs attribuent des mérites qui ne sont en réalité que l'effet d'une grande homogénéité culturelle de départ. Donc quand on a des gens issus de la gauche, ou quand on a ce discours qui peut être dit, qui peut être écrit, on voit comment on a perdu hein, sur ce point-là. Et donc comment il faut remonter au créneau, comment il faut remonter sur le front. Et je retiendrai, alors j'ai juste deux choses sur la question de l'autogestion. En fait, j'ai vu il y a une semaine un film que je vous conseille, c'est Le Balai Libéré. C'est femmes de ménage de l'université catholique de Louvain qui, dans les années 70, sont mis en grève, ont viré leur patron et pendant 14 ans ont auto-géré le ménage dans cette université. C'est un film énorme. Voilà. Et à un moment, elles ont cette phrase qui est « On ne veut plus être consulté, on veut décider. » Et moi, je trouve que c'est l'horizon vers lequel on doit tendre. C'est-à-dire que les consultations, tout ça, c'est bien. Si on veut, on nous fait parler. Les collègues, ils en ont ras-le-bol. Non, maintenant, il faut que ce soit nous qui décidions, comme l'a dit Fred, parce que c'est nous qui travaillons. Et comment aller bon, je mets des choses de côté, mais ouais. Donc, moi, je retiens des mots qui ont été dits. Il y a cette conscientisation qui est importante. Il y a la manière dont à l'école on lutte contre les dominations et les oppressions. Et je pense que peut-être plutôt que de parler d'utopie, peut-être comment construire ensemble un imaginaire pour une école, ce qui n'est peut-être pas exactement l'utopie, on sait qu'elle peut effrayer parfois, mais quel imaginaire on peut construire. Et je pense que cet imaginaire, on peut le construire, Gramsci a été cité, mais qu'à travers un intellectuel collectif. C'est-à-dire que c'est en mettant ensemble nos réflexions, éventuellement parfois nos divergences ou nos approches différentes, on pourra construire quelque chose qui se rapprochera de ces choses-là. Comme j'aime pas finir en parlant, j'avais juste une petite phrase de notre camarade Louise Michel qui disait « La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. » Et voilà, je pense que pour moi, ce sera un beau programme à mettre en œuvre.
Celle-là, elle fera consensus, Greg.
Oui,
Capucine, Capucine, tu peux,
un 18 mars en
je t'ai
plus.
oublié au passage. Tu veux dire un mot? N'hésite pas.
Non, non, c'est bon, j'avais pas prévu de conclure.
Bien. Eh bien, nous vous remercions toutes et tous. Nous remercions nos intervenants et nos intervenantes. Demain, on espère qu'on sera nombreux en grève et dans la rue et que ça ouvrira des perspectives pour un élargissement du mouvement social à l'échelle nationale. Hein, il y a un vrai enjeu. Donc, c'était la première initiative publique de la commission éducation de la gauche éco-socialiste. Elle en appelle d'autres. Donc, n'hésitez pas à suivre nos publications, notre site, nos listes de diffusion. Et puis, ben voilà, on se retrouve dans les mobilisations et on se retrouve dans d'autres occasions de discuter d'école, de mobilisation et de transformation radicale de la société. À bientôt à tous et à toutes. Bonne soirée.